France Inter.
Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des urgences saturées comme jamais depuis le Covid, la faute à l'épidémie de grippe qui continue de se propager. Nous serons à Nice dans un instant et en Lozère avec des soignants d'EHPAD qui refusent la vaccination. Bon vent et bonne mère, papa. Les mots de Marine Le Pen ce matin pour saluer la mémoire de son père au lendemain de sa disparition. Des manifestations d'opposants hier soir en France. Mort, même l'ennemi a droit au respect, réagit la porte-parole du gouvernement que nous écouterons. Et puis à 13h50, c'est la France, la chronique d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Ce qu'il nous reste à découvrir sur Jean-Marie Le Pen et notamment un discours très étonnant du Le Pen député dans les années 50 qui parle de l'importance pour la France des musulmans d'Algérie. À suivre encore, ces 5 départements du nord de la France en vigilance orange, neige et verglas, Olivier Proust.
Et oui Jérôme, la neige s'invite en ce moment même, elle remplace la pluie dans l'intérieur de la Seine-Maritime ou du Pas-de-Calais et elle s'étend cet après-midi sur le nord avec 5 départements en orange, de la Haute-Normandie au Hauts-de-France. On attend sur ces départements une couche jusqu'à 5 à 10 cm, localement 20 sur les hauteurs. Près de la Belgique, la neige va continuer de tomber cette nuit et encore demain matin.
Vos prévisions, Olivier, dans une demi-heure. Le silence de l'Europe face au coup de boutoir de Donald Trump et d'Elon Musk. La commission reste muette, nous appellerons notre correspondant à Bruxelles. Et puis Didier Deschamps qui confirme bien son départ ce matin.
C'est quelque chose qui est très clair pour moi dans ma tête depuis bien longtemps. C'est juste clarifié, mais c'est pas pour demain, dans une semaine ou dans 3 semaines. Il y a encore de belles échéances devant nous et avec toujours la même détermination et la même exigence pour avoir les meilleurs résultats possibles.
Et oui, ce sera en 2026. D'ici là, il faudra redresser l'équipe de France. Dans une vingtaine de minutes, les conseils cinéma d'Alexis Demeyer. Et puis à partir de 13h30, nous nous arrêtons dans un département qui ne cesse d'être à l'affiche. C'est le Jura. Si vous aussi vous avez découvert ce territoire ou un autre grâce au cinéma, vous nous appelez 01 45 24 7000. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, l'imitateur Didier Gustin demande Claude Nougaro à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme, merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Voilà qui fait remonter de bien mauvais souvenirs. Au moins une vingtaine d'hôpitaux français ont déclenché ces derniers jours le plan blanc pour faire face à l'afflux de patients grippés et ainsi rappeler du personnel. Pour certains établissements, c'est même la première fois depuis 5 ans et la pandémie de Covid. Alors nous verrons dans un instant que les réticences sur la vaccination expliquent en partie cette situation. D'abord le point à Nice avec Pierre-Marie Tardieu. C'est le chef de pôle aux urgences du CHU Pasteur.
Nous sommes le premier service d'urgence de France, hein, en termes d'entrée, si vous voulez. Et donc, nous sommes passés à plus de 300 entrées par jour depuis le 30 décembre. Essentiellement, donc, des patients âgés, polypathologiques et grippés. Donc, depuis une semaine, nous sommes en tension sur le CHU de Nice avec une problématique de lits d'aval. Il faut absolument trouver des lits d'aval pour nos patients âgés donc, qui viennent et qui doivent être hospitalisés. Et donc, nous sommes en hôpital en tension depuis la semaine dernière.
Pierre-Marie Tardieu au micro d'ICI Azur à Nice. Dans les chiffres publiés ces derniers jours par Santé publique France, 2 nous interpellent. D'abord, près de 90% des hospitalisations pour grippe concernent les personnes âgées de plus de 65 ans. Et puis la couverture vaccinale est en baisse de 5% par rapport à l'année dernière. Et vous l'avez constaté, Saïd Makhloufi, dans certains EHPAD de Lozère, chez certains résidents et surtout chez des soignants.
Thérèse, 77 ans, ne veut pas se faire vacciner.
Non, non. Maintenant, à mon âge, si je pars, eh bien, tant pis.
Elle dit, elle a la même idée que moi.
Mais oui.
À l'âge qu'on a.
Si on part, c'est pas grave.
Si la situation fait sourire Thérèse, elle a de quoi inquiéter Laurence Cardona, c'est la directrice de la résidence Pioncourt-Amande.
Ça pourrait poser un problème, oui, parce qu'en fait, c'est pas qu'une protection pour eux, c'est aussi une protection pour les autres.
À quelques kilomètres de là, l'EHPAD de l'Adoration.
Madame Martin, bon appétit.
Dans cet établissement, 90% des résidents sont vaccinés.
Ah oui, j'ai fait le vaccin contre la grippe il y a un mois déjà.
Et vous le faites à chaque fois, chaque année?
Oui, chaque année à peu près, oui.
Ici, les retraités et sont vaccinés, contrairement au personnel soignant.
Le problème qui se pose tous les ans, c'est le peu d'intérêt pour la vaccination au niveau des salariés.
Roselyne Durand, infirmière coordinatrice de l'établissement.
Donc moi, je reste persuadée qu'on les protégerait mieux si nous, on se faisait vacciner.
Vous avez fait le vaccin contre la grippe ?
Non.
Mélanie, infirmière au sein de l'EHPAD. Pourquoi vous ne le faites pas ?
Parce que je n'ai jamais eu la grippe.
Non mais là, c'est pas pour vous, c'est pour les résidents.
Et oui, mais je pense qu'on a assez de vaccins et ça me suffit largement ce que j'ai.
Sur une cinquantaine de salariés de l'EHPAD, 6 sont vaccinés contre la grippe.
Reportage ici, Garloser, ex-France Bleu. Beaucoup s'étaient exprimés jusqu'ici. Après la mort hier à 96 ans de l'ancien leader de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen, beaucoup, mais pas elle. Marine Le Pen, rentrée de Mayotte hier soir, a fini par sortir du silence dans la matinée avec ces mots pour son père, écrit sur le réseau social X, beaucoup de gens qui l'aiment l'attendent là-haut, beaucoup de gens qui l'aiment le pleurent ici-bas. Fin de citation. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
C'est un message à mots pesés.
Oui, c'est toute leur relation père-fille si complexe que Marine Le Pen résume pudiquement. Un âge vénérable avait pris le guerrier mais nous avait rendu notre père, la mort est venue nous le reprendre, écrit-elle. Quelques mots qui racontent la réconciliation du clan depuis quelques années, depuis ses 90 ans, les trois filles réunies autour de Jean-Marie Le Pen. Pierrette, la première épouse, était elle aussi revenue dans le tableau aux premières loges à chaque soirée électorale. Une réconciliation après la grande rupture. En 2015, la fille, qui a toujours appelé son père Le Pen en public, l'exclut des instances après une énième provocation. « J'ai couvé un alligator », confiera-t-il au micro d'Aurélien Colli, alors en charge du FN pour France Inter. Elle le comparait parfois au dieu Cronos, celui qui mange ses enfants.
Alors, ces obsèques se dérouleront samedi à la Trinité-sur-Mer. En Bretagne, nous y serons dans un instant. Mais Marine Le Pen doit aussi gérer l'hommage du parti à Jean-Marie Le Pen. Beaucoup l'attendent.
Oui, certains le souhaitent, comme Louis Alliot, maire de Perpignan. L'idée ne choque pas non plus ce cadre, arrivé beaucoup plus récemment dans le parti. Si on est honnête, dit-il, il a mis sur la table les sujets toujours d'actualité au RN. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la famille veut organiser une messe publique à Paris. Les trois sœurs se sont mises d'accord et ça, malgré le risque politique, se retrouver côte à côte avec tout ce que l'extrême droite compte aujourd'hui de plus radical. Tout le monde et le bienvenu dans une église balaie le même cadre, y ajoutant un vœu pieux, ça ne relèvera plus du politique.
Merci Élodie Forêt. La Trinité-sur-Mer, justement, ce port du Morbihan, commune d'origine de Jean-Marie Le Pen, il y sera enterré et notre reporter Timur Özturk est allé ce matin à la rencontre des habitants.
Sur le port, battu par le vent et les averses ce matin, la plupart des Trinitains ne sont pas très bavards quand il s'agit d'évoquer Jean-Marie Le Pen.
Oh mais ça, je fais pas de politique. Hein.
Il faut dire aussi qu'on ne l'apercevait plus beaucoup ces dernières années.
J'ai plus vu sa fille ici que lui.
Jean-Marie Le Pen avait déjà légué la maison familiale, mais il garde à la Trinité quelques proches qui l'ont connu, comme le conseiller régional Rassemblement National, Florent de Kersauzon.
C'est quand même un sentiment de tristesse. J'avais de l'amitié et on l'admire. De façon sympathique. Quoi.
Mais le fondateur du Front National était loin d'être populaire dans sa commune natale, au bar-tabac du port. Philippe ne cache pas son hostilité.
Il n'était pas très aimé du tout, même. Une fois qu'il soit enterré, il prend plus de conneries. Hein.
Jean-Marie Le Pen sera inhumé samedi au cimetière de la Trinité, dans le caveau familial des Le Pen, surmonté d'une croix celtique.
Alors, depuis hier, la bataille pour la mémoire est engagée. Les opposants à Jean-Marie Le Pen rappellent ses multiples condamnations en justice pour contestation de crimes contre l'humanité ou encore provocation à la haine. Plusieurs centaines ont manifesté hier soir dans les rues. Il y a eu quelques interpellations à Rennes, Lyon ou encore Paris. Manifestation déplorée ce matin par la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima.
Quand Jacques Chirac était décédé, Jean-Marie Le Pen avait tweeté la chose suivante. « Mort, même l'ennemi a le droit au respect ». Donc je reprends ces mots pour avoir été une chiraquienne, pour avoir combattu beaucoup Jean-Marie Le Pen sur ses positions, sur son comportement, sur ses déclarations. Je crois qu'aujourd'hui, mort, il a le droit au respect et sa famille à nos condoléances républicaines.
Les partisans du leader et du fondateur du Front National, eux, sont très présents sur les réseaux sociaux pour le défendre. Les réseaux sociaux, c'est là que beaucoup de jeunes ont découvert hier la figure de Le Pen. Elle y circule très intensément. Reportage William Delesseux.
À la sortie de ce lycée de l'Est parisien, Giovanna en seconde l'assure, le visage de Jean-Marie Le Pen s'affiche partout depuis hier.
Sur Instagram particulièrement.
Et même avant, elle avait découvert son nom en ligne.
Il y a beaucoup de politique sur les réseaux sociaux. On peut voir beaucoup d'images pas forcément positives. Je sais qu'il a toujours tenu des propos extrêmement limites par rapport à l'immigration et tout ce genre de choses.
En première, Thomas explore les archives.
Sur YouTube, Ina, par exemple, je me souviens d'interviews où il tenait des propos racistes, xénophobes, etc. J'aime pas trop la personne.
Jean-Marie Le Pen, pour Robin en terminale, il n'en faut rien oublier.
C'était pour moi un facho. Ça reste un personnage quand même qui, même s'il était plus trop dans l'actualité, est resté connu de par ses faits antérieurs.
Fait qu'il a découvert dans des vidéos TikTok où l'ancien patriarche de l'extrême droite est parfois tourné en dérision.
Des phrases comme, je vais dire l'emblématique, même si c'est pas forcément le mot, Jeanne au secours.
Au pied de la statue de Jeanne d'Arc.
Exactement. Puis même des phrases homophobes, racistes, voilà.
Au-delà de l'image, ces lycéens sont conscients de la filiation de l'actuel Rassemblement National avec le Front National, cofondé par Jean-Marie Le Pen.
Ce qu'il nous reste à découvrir de Jean-Marie Le Pen, ce sera à 13h50 le thème de la chronique « C'est la France » d'Éric Fotorino. Nous étions il y a une minute sous la pluie du Morbihan à la Trinité-sur-Mer. La pluie battante également ce matin à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, pour l'hommage à Clarissa Jean-Philippe. Cette policière municipale tuée le 8 janvier 2015 par le terroriste islamiste Hamedi Coulibaly, celui-là même qui tuera à nouveau le lendemain à l'Hypercacher. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Jérôme.
Vous avez suivi, Laurent, cet hommage ce matin. Sa ville de Montrouge ne veut pas l'oublier.
Oui, ne pas oublier Clarissa Jean-Philippe, jeune policière municipale âgée de 26 ans, assassinée, vous l'avez dit, par Hamedi Coulibaly ici à Montrouge. Le même terroriste qui allait s'attaquer dès le lendemain à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Hommage républicain, dépôt de gerbes pour cette policière municipale. Moment de recueillement accompagné du chef de l'État qui n'a pas pris la parole. Le maire de Montrouge, Étienne Langereau, a rendu hommage à l'engagement de la policière.
Face à la barbarie, il y a le courage. Ce souvenir est un acte de résistance. Nous devons transmettre cette mémoire, en parler à nos enfants. Rappeler que derrière chaque uniforme, il y a une vie. Une histoire, une personne qui a choisi de servir les autres. En ce jour, nous nous inclinons avec respect et affection devant la mémoire de Clarissa. Nous ne devons jamais l'oublier.
Une stèle a été installée à l'endroit où était abattue la jeune policière en hommage à Clarissa Jean-Philippe. La ville de Montrouge vient de rebaptiser son hôtel de police du nom de la policière municipale.
Merci Laurent Kramer pour cet hommage à Clarissa Jean-Philippe en direct de Montrouge avec les moyens techniques de Raymond Albouy.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Elle est détenue depuis 2 ans et demi en Iran. Les nouvelles de la Française Cécile Kohler ne sont pas bonnes aujourd'hui. On va en parler dans un instant, mais d'abord ce qui est peut-être un signe d'espoir tout de même pour elle. On a appris ce matin la libération de la journaliste italienne Cecilia Sala, qui elle avait été arrêtée à Téhéran le 19 décembre dernier pendant un reportage. Bonjour Blandine Hugonnet.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes en direct de Rome pour Inter. Blandine, Cecilia Sala est en train de rentrer en Italie.
Oui, tout à fait. L'avion qui ramène Cecilia Sala en Italie a décollé il y a un peu moins de 2 heures maintenant. C'est ce que nous a fait savoir le gouvernement ici à Rome, qui se félicite de cette libération. Résultat d'un travail intense à travers les voies diplomatiques et les renseignements, dit le gouvernement. Il faut dire que l'affaire était délicate. La journaliste de 29 ans était détenue dans la prison d'Evin, dans la capitale Téhéran, accusée d'avoir violé les lois de la République islamique, mais sans autre motif précisé par les Iraniens. C'est ce que n'ont cessé de dénoncer les autorités italiennes, alors que Cecilia Sala, qui travaille pour un quotidien et pour un site de podcast ici, était en séjour professionnel, arrêtée en possession d'un visa de journaliste. Cette arrestation est retenue par Rome comme une probable représaille à celle d'Iraniens, notamment d'un expert en drone qui a été interpellé en décembre sur le territoire italien à la demande des États-Unis, que Giorgia Meloni a d'ailleurs sollicité pour assouplir la position américaine vis-à-vis de l'Iran, et ainsi aujourd'hui permettre cette libération de l'italienne qui doit arriver à Rome dans l'après-midi après 3 semaines de détention à Téhéran.
Blandine Hugonnet en direct d'Italie pour Inter. Cécile Kohler, cette professeure française arrêtée elle en plein voyage touristique en Iran, est donc toujours détenue, coupée du monde dans la prison d'Evin où elle a été placée à l'isolement. Et ce matin sur Inter, la prix Nobel de la paix 2023, l'iranienne Narges Mohammadi a donné de ses nouvelles. Narges Mohammadi a pu nous parler car elle est temporairement sortie de détention pour se soigner. Et selon elle, Cécile Kohler, qui est détenue détenue dans la même prison qu'elle, est très affaiblie sur le plan physique. Elle se dit très inquiète pour elle. La sœur de Cécile, Noémie, à écouter ce témoignage ce matin.
C'est bouleversant, même si c'est vrai qu'on connaît les conditions de détention de Cécile. En tout cas, on en connaît assez pour que ça nous inquiète énormément sur sa santé. Mais c'est vrai qu'être confronté au concret et au réel, c'est toujours douloureux. Ça vient juste concrétiser nos craintes. Après, ce témoignage, pour nous, il est très important parce qu'il vient appuyer ce qu'on dénonce depuis 2 ans et demi, à savoir les conditions de détention destructrice de Cécile. Et pour nous, c'est aussi très important et très précieux de savoir que Cécile a le soutien de Narges Mohammadi et des femmes de la prison des Vies. Pour nous, c'est d'une urgence absolue qu'elle soit extraite de cette section 209 dans laquelle elle est détenue depuis 3 ans. Et on sait que c'est invivable, que c'est impossible en fait, de rester en bonne santé dans cet endroit-là. Donc on continue de le demander, on continue d'interpeller les autorités iraniennes comme on peut pour qu'elle sorte enfin Cécile de la section 209 et qu'elle la transfère dans un quartier où les conditions de détention sont moins inhumaines.
Noémie Colère, la sœur de Cécile, au téléphone de Valérie Crova. L'Iran, qui comme le reste du monde, se prépare à composer avec un nouvel interlocuteur à Washington, Donald Trump, sans oublier son futur ministre de l'efficacité gouvernementale, le milliardaire Elon Musk. Deux hommes qui, ces derniers jours, ces dernières semaines, s'en sont pris directement et violemment à 2 pays de l'Union européenne. Elon Musk fait ouvertement campagne sur son réseau social X pour l'extrême droite allemande et il qualifie le chancelier Olaf Scholz, je cite, d'imbécile incompétent. Quand Donald Trump, lui, parle d'annexer le territoire du Groenland, qui est un territoire danois, pays de l'Union européenne. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Bruxelles. Fabien, ces mises en cause sont gravissimes, mais pour l'instant, à la Commission européenne, personne ne réagit ?
Oui, alors il y a des explications officielles. D'une part, le fait qu'une visite du fils de Donald Trump au Groenland ne constitue pas en soi un acte officiel de la diplomatie américaine. C'est davantage vu ici comme une provocation qui ne justifie pas nécessairement de réaction officielle. Il y a aussi le fait que le Groenland ne fait pas officiellement partie de l'Union européenne malgré ses liens historiques avec le Danemark. Mais c'est tout de même un territoire d'outre-mer qui lui est bel et bien associé avec un statut particulier. Pour l'instant, vous le disiez, pas de réaction officielle de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Quant à Elon Musk, il y a bien eu quelques réactions de chefs d'État européens à titre individuel. Emmanuel Macron a fustigé avant-hier l'international réactionnaire qu'il promeut sur X, ou l'espagnol Pedro Sanchez à l'instant qui vient d'accuser Musk d'attaquer ouvertement les institutions et d'attiser la haine.
Comment expliquer ce silence de la Commission, Fabien ?
Alors d'abord par la pression que Donald Trump a mis à plusieurs reprises sur les Européens ces dernières semaines sur plusieurs sujets. La défense, il presse ses alliés européens de l'OTAN d'augmenter très significativement leurs investissements militaires. On pourrait aussi citer les menaces de relèvement de droits de douane. Et puis face à lui et à son futur ministre Elon Musk, il faut bien reconnaître que les 27 ont du mal à faire front commun entre ceux comme l'italienne Giorgia Meloni qui revendique sa proximité idéologique avec le futur président des États-Unis ou d'autres qui espèrent accueillir l'investisseur Elon Musk s'il décide d'ouvrir de nouvelles usines Tesla en Europe.
Merci Fabien Cazot. Parmi les nombreuses annonces de Donald Trump ces derniers mois, celle-ci résonne étrangement aujourd'hui. L'arrêt de l'aide fédérale reçue par la Californie pour lutter contre les feux de forêt. Tout cela alors que Los Angeles, la ville la plus importante de Californie, la deuxième du pays, fait face à un très violent incendie. C'est le fortuné quartier de Pacific Palisades qui est en feu. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
1200 hectares ravagés, 30 000 personnes doivent être évacuées et le feu reste incontrôlable.
Oui, sur l'une des nombreuses vidéos postées il y a quelques heures sur les réseaux sociaux, on voit de nuit un bord de route incandescent sur le front de mer du Pacifique qui illustre l'ampleur des dégâts et le caractère incontrôlable des feux. Les flammes touchent 3 secteurs autour de Los Angeles, 4 millions d'habitants. Le feu avance au nord-est et nord-ouest. Il est poussé par des vents hors normes qui vont des montagnes vers la mer et qui ont pu atteindre les 150 km/h sur les hauteurs. Comme la tempête ne devrait pas faiblir avant plusieurs heures, le pire est encore redouté. Les pompiers se concentrent sur le sauvetage des personnes. Ils ne peuvent pas encore contenir les flammes, explique le président des pompiers professionnels de Californie, Brian Rice, au micro de CNN.
Ils regardent ce qu'ils ont en face d'eux. S'ils peuvent, ils cherchent à intervenir pour sauver des maisons. Mais pour l'heure, leur mission première, c'est d'évacuer les civils pour les mettre à l'abri.
Par endroits, des bulldozers ont été utilisés pour dégager des routes qui étaient encombrées par des voitures abandonnées. 1400 pompiers sont engagés. L'état d'urgence a été décrété. Pour l'heure, il n'y a pas de victimes. Au moins un stade a été réquisitionné pour accueillir les déplacés. Le sud de la Californie souffre d'un important déficit de pluie cet hiver qui alimente la combustion de la végétation.
Précision signée Étienne Monin. Merci Étienne. Là, c'est l'heure de la reconstruction à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Et pour cela, le gouvernement a estimé avoir besoin d'un texte spécial, notamment pour déroger à nos règles d'urbanisme. D'où la présentation ce matin en Conseil des ministres d'un projet de loi d'urgence. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Vous êtes à l'Élysée pour Inter, texte présenté ce matin par le nouveau ministre des Outre-mer, Manuel Valls.
Oui, un texte qui comprend une batterie de mesures pour écraser les procédures, aller plus vite dans la reconstruction, dérogation aux règles de l'urbanisme pour une durée de 2 ans ou aux règles de la commande publique, création d'un établissement public pour piloter cette reconstruction ou encore suspension de certains recouvrements fiscaux et sociaux. Mais Manuel Valls l'a dit lui-même, ce texte est incomplet, il appelle le Parlement à l'enrichir, notamment sur un sujet crucial, dit-il, la lutte contre l'habitat illégal.
Nous ne laisserons pas Mayotte redevenir une île bidonville. Il nous faudra réfléchir, par exemple, à élargir les catégories d'agents pouvant constater l'édification illégale ou encore à faciliter juridiquement pour les officiers de police judiciaire la traversée des bidonvilles, des mangas. Je reconnais que c'est un des dossiers les plus difficiles.
Un dossier difficile et qui s'articule selon lui à l'immigration clandestine. Un fléau qui ronge Mayotte, a-t-il répété ce matin. Il l'a dit, la question du durcissement du droit du sol dans l'archipel sera posée dans la loi programme qui sera présentée dans les 3 mois. Pour toutes ces mesures, combien, quelle enveloppe consacrée à Mayotte? Manuel Valls est resté prudent.
Il est très difficile de vous donner un chiffre parce qu'il faut attendre l'ensemble des expertises. Mais 3 milliards.
Et il chiffre à plusieurs centaines de millions d'euros les mesures déjà prises à Mayotte dans le cadre de la gestion de crise et de l'extrême urgence.
Marie Mollet à l'Elysée pour Inter.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes là pour nous parler des sorties ciné de ce mercredi, mais avant de vous donner la parole, prenons des nouvelles d'un acteur qui a crevé l'écran l'an dernier et dont vous nous aviez parlé, c'est Abou Sankaré, qui incarnait un livreur guinéen dans le film L'histoire de Souleymane. Sankaré récompensé, on s'en souvient, au Festival de Cannes, mais dont les 3 premières demandes de titre de séjour avaient été refusées. Eh bien, la 4e a été la bonne. Il a récupéré le document ce matin même en préfecture à Amiens. Titre de séjour salarié valable 1 an. Grâce notamment à une promesse d'embauche comme mécanicien, c'est France Bleu Picardie aujourd'hui, ici Picardie, qui nous donne cette information et qui a pu joindre Boris Lochkine, c'est le réalisateur de l'histoire de Souleymane.
Ça fait déjà quelques jours, voire quelques semaines qu'on sait que ce papier est en train de se préparer. Donc on a eu le temps de se réjouir beaucoup, mais ça me fait tellement, tellement plaisir pour lui parce que je l'ai vu tellement malheureux ces derniers mois. Alors même qu'on avait fait ce film, que ce film était un succès et que lui était toujours condamné à rester enfermé chez lui, à attendre que quelque chose se passe, quelque chose tombe du ciel comme ça. C'est terrible de voir quelqu'un comme ça qui est plein d'énergie, qui a envie de faire plein de choses et qui est, comme il dit lui-même, comme en prison chez lui. Pour moi, c'est un peu la fin du travail. Je l'avais dit comme ça plus tôt. J'avais dit que tant que Sankaré n'aurait pas de papier, j'aurais pas terminé mon travail sur le film. J'estime que c'est ma responsabilité à moi, comme réalisateur, qui l'a emmené dans cette galère du cinéma, d'être à ses côtés jusqu'au bout, jusqu'à cette régularisation. Donc, mission accomplie pour moi.
Voilà, des papiers donc pour Abou Sankaré. On en vient à votre sélection, Alexis. À commencer par ce coup de cœur, ça s'appelle Les Feux Sauvages.
Oui, nous sommes seulement début janvier et je suis déjà à peu près persuadé que ce nouveau long métrage du chinois Jia Zhangke sera dans mon top 10 de l'année 2025. Projeté en compétition à Cannes en mai dernier, Les Feux Sauvages déploient son récit sur 2 décennies, les premières du XXIe siècle. En utilisant des images de ses précédents films, Jia Zhangke parvient à reconstituer l'histoire d'amour tourmentée entre une femme et un homme dans une petite ville populaire du nord de la Chine. Cette romance est particulièrement touchante. Rarement le temps qui passe n'aura été aussi bien signifié sur grand écran. Et bien sûr, en suivant ces deux personnages, nous sommes aussi témoins des mutations du pays rendant cette œuvre définitivement incontournable.
Vous avez été moins convaincu par La chambre d'à côté de Pedro Almodovar.
I'll sleep with my door open, and the day that you find it closed is the day it's already happened.
Le réalisateur espagnol traverse pour la première fois l'Atlantique pour nous raconter la destinée de deux bourgeoises new-yorkaises liées par la question de la fin de vie et du droit à mourir dans la dignité. Jusque-là, tout va bien, d'autant que les protagonistes sont interprétés par les jamais décevantes Tilda Swinton et Julianne Moore. Mais Almodovar a vieilli et son cinéma avec lui, tournant définitivement le dos à la folie punk de ses débuts, puis à l'irrévérence de ses plus grands films, de Tout sur ma mère à Volver. Il semble ici chercher la reconnaissance des grands festivals, et grand bien lui en a pris puisqu'il est reparti de Venise avec le Lion d'Or. Pour ma part, je reste vraiment sur ma faim. Dialogue mal écrit, rebondissement prévisible ou artificiel, musique envahissante et sirupeuse, mise en image caricaturale. On pourrait presque apprécier le côté série B du projet, mais malheureusement, Almodovar semble désormais se prendre très au sérieux.
Et un documentaire en salle cette semaine, intitulé malicieusement « Personne n'y comprend rien ».
Oui, car c'est une citation de Nicolas Sarkozy évoquant dans le Figaro en 2023 l'affaire du supposé financement libyen de sa campagne en 2007.
Pour comprendre cette affaire, il faut commencer par remonter assez loin en arrière.
On va comprendre que de l'argent a été mis sur la table.
Alors que le procès de cette affaire a débuté lundi à Paris, le film de Yannick Kargoat propose justement de mieux comprendre cette affaire très complexe. Ce documentaire d'une facture très classique s'appuie sur la longue enquête de Mediapart, interrogeant ses deux auteurs, Fabrice Arfi et Karl Lasquet, et c'est passionnant.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
La fille d'un grand amour, une comédie romantique avec Isabelle Carré et François Damiens. Hiver à Sokcho, un drame familial en Corée du Sud avec Roche Dizem dans le rôle d'un touriste français. Et je vous signale aussi un film américain intitulé Bernie. Il date de 2011, mais il était inédit en France. Cette comédie noire signée Richard Linklater est totalement savoureuse avec l'impayable Jack Black dans le rôle titre, mais aussi Matthew McConaughey et l'immense Shirley MacLaine. Linklater s'est inspiré d'un vrai fait divers pour ce faux documentaire tourné dans son Texas natal. Et c'est donc ce mercredi en salle.
Merci Alexis de Meyer. On va reparler cinéma dans une minute et du Jura, terre de tournage.
Un dieu.
Ces derniers mois, notamment. Là, le titre, c'est chronique d'un départ annoncé. Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France de football qu'il occupe depuis 2012, mais ce sera uniquement après la Coupe du Monde 2026. Bonjour Nathalie Yanetta.
Bonjour Jérôme Cadet.
Directrice des sports de Radio France. Alors, l'information a fuité hier soir et vous en avez eu la confirmation dans la soirée, mais l'interview n'est diffusée qu'en ce moment dans le 13h de TF1, alors que manifestement, ça n'était pas prévu.
Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du Monde, mais ça s'arrêtera là, parce qu'il faut que ça s'arrête là un moment.
Ah, vous arrêterez, ce sera terminé.
Dans ma tête, oui, c'est bien clair.
Bah, c'est une annonce, ça.
Oui.
Oui, voilà, on entend l'étonnement de la présentatrice Marie-Sophie Lacaro dans le style traditionnel de Didier Deschamps, avec à ses côtés Brigitte Macron, qui était là
qui
aussi pour parler des pièces jaunes
et
qui semble extrêmement surprise de cette annonce. Bon, on verra qui arrive après Didier Deschamps. Tout viendra à point, dit ce matin le président de la Fédération Française de Football, si c'est Zinedine Zidane qui lui succède dans un peu plus d'un an. Mais d'ici là, Nathalie Yanetta, il y a du pain sur la planche pour Didier Deschamps. L'équipe de France ne va pas bien fort.
Et si c'était le sort qu'il manquait à cette équipe de France qui, vous l'avez dit, c'est vrai et c'est une des raisons aussi pour lesquelles Didier Deschamps dit qu'il s'arrêtera après 2026. Il a subi beaucoup de critiques sur ses choix, sur sa gestion des joueurs, le style de jeu. C'est une manière peut-être, à les savoir pour lui, de libérer une soupape et de faire un pari, ressouder le groupe en assumant une décision claire, responsable et lucide. Alors l'ambition, rassurez-vous, elle sera toujours aussi forte, même si le groupe est en reconstruction, puisqu'on a assisté au départ notamment de Antoine Griezmann il y a quelques semaines. Les joueurs, eux aussi, probablement, vont se sentir libérés, mais quand même liés à un pacte pour réussir jusqu'au bout avec un sélectionneur qui, quand même, reconnaissons-le, aura été et aura offert au football français un palmarès hors normes. Et bon courage pour le prochain, parce que 14 ans de longévité avec le palmarès de Deschamps, ça sera pas facile d'y succéder, même si tout le monde pense à lui et que lui sera probablement à la hauteur, c'est Zinedine Zidane.
Deux lignes encore peut-être au palmarès de Didier Deschamps, la Ligue des Nations cette année et peut-être la Coupe du Monde aux Amériques.
Prochain rendez-vous en mars pour les quarts de finale.
Merci Nathalie Yanetta, directrice des sports de Radio France, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo enneigée, notamment au nord, d'Olivier Proust. Puis à partir de 13h30, direction le Jura, un département qui cumule les tournages de films ces derniers mois. Pourquoi un tel engouement ? Quelle est l'importance pour un territoire, pour une région, pour ses paysages, pour ses habitants d'être représentés à l'écran ? Venez nous le dire, 01 45 24 7000. 13h45, une semaine dans la vie de l'une des plus anciennes patientes transplantées au monde, c'est Anne-Marie Amila. Aujourd'hui, nous rencontrons ses chirurgiens. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino du 1 Hebdo et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Éric, que nous reste-t-il à découvrir sur Jean-Marie Le Pen ?
Eh oui, nous croyons avoir tout vu, tout entendu sur l'ancien fondateur du Front National, longtemps leader de l'extrême droite, sans tout, sauf sans doute un certain discours.
Et il ne faut pas manquer votre chronique avec vous, Frédéric. Aujourd'hui, un imitateur.
Oui, il ne faut pas le manquer non plus. Il s'appelle Didier Gustin.
Mais laissez-moi le dire.
Il joue actuellement son nouveau spectacle au Théâtre de Passy à Paris. Et avec lui, nous écouterons la chanson « Allée des brouillards » de Claude Nougaro, l'un des premiers artistes qu'il a imité et l'un des premiers artistes également à être venu le voir sur scène.
Merci à tous les deux. À ne pas manquer donc. Et à tout à l'heure.
Médias en scène, le Festival international des médias de demain, le 14 janvier. Retrouvez Hugo Décrypte pour repenser ensemble l'information de demain. Un événement à vivre à la Maison de la Radio et de la Musique à partir de 9h et en streaming à partir de 14h. Médias en scène, le 14 janvier, un événement Les Échos Le Parisien et France Info. Inscription gratuite dès maintenant sur mediasenscene.com.
Avec AXA, BNP Paribas et le groupe Bayard.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
Bon, on va parler de neige dans un instant, mais d'abord de pluie.
Ah oui, de la pluie, oui, qui traîne une grande partie de la journée sur la moitié nord avec des cumuls parfois copieux. Les sols sont souvent saturés et des cours d'eau réagissent. Une crue de l'Orne nécessite notamment un orange cru pour le Calvados. Cette perturbation est souvent douce et venteuse avec des vents de sud-ouest soutenus jusque dans les terres. Mais de la Normandie à la Belgique, les conditions sont nettement plus hivernales. Un vent d'est et de la neige mêlée à la pluie et même de la neige seule avec 5 départements. Du nord en orange, de la Seine-Maritime au nord pour une couche attendue de 5 à 10 cm. La neige sera durable cette nuit et encore demain matin sur Nord-Pas-de-Calais et le long de la Belgique avec des cumuls d'ici demain matin à près de 20 cm possibles sur les hauteurs de l'Artois. Et au sud, eh bien de la pluie aussi plus faible et du vent aussi qui ont gagné la façade atlantique et qui progressent vers le massif central d'ici ce soir et seul le quart sud-est reste au sec sous des voiles. Les températures sont très contrastées avec 1 à 3 degrés sous la neige, mais 12 à 18 de la Bretagne au sud-ouest à la Méditerranée et aux Alpes.
Merci Olivier Proust, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est un constat plutôt surprenant que l'on fait en détaillant le box-office des 7 derniers jours en France. Parmi les 6 films les plus vus par les Français la semaine qui vient de s'écouler, 2 ont été tournés dans le même département, le Jura.
Anthony, c'est ça ?
T'automne.
Tu sais conduire un camion ?
J'ai déjà conduit celui de mon père.
Est-ce que vous avez entendu ou vu des choses qui vous paraissaient anormales ?
Anormal, c'est-à-dire ?
Deux hommes, une femme, du miel.
Oh là 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 là. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quelle somme exactement ?
Si je me fais le compte dedans, je peux me faire 30 000 balles, mon gars.
Tu vas jamais la gagner, la médaille, T'automne.
Une petite voix dans ma tête me disait de rester quelques jours de plus ici.
Je veux vous aider en faisant équipe avec vous.
Si je cherchais un coéquipier, vous seriez le dernier sur ma liste.
Je crois qu'on reste ensemble à cause de Jim. À Jim ?
La gym.
Pourquoi t'as pas le même nom que maman et moi ?
Moi, on a décidé de pas faire comme tout le monde.
Jimmy boit du gin dans sa Chrysler.
Forcément un message à faire passer. C'est le principe avec les serial killers.
Un serial killer.
Mammouth.
Mais c'est mal parti si tu penses comme ça. C'est dans ta tête, ça.
Qu'est-ce que vous faisiez la nuit du 21 ?
On était au Cupidon.
La boîte t'échangiste ?
Le jeudi, c'est soirée bang bang.
Gang bang.
On s'ennuie jamais avec vous.
Voilà, petit mix entre ces deux films à l'affiche en ce moment. Un ours dans le Jura et 20 dieux, auxquels nous avons ajouté le roman de Jim des Frères Larieux, sorti l'an dernier, ainsi qu'une série Polar Park diffusée sur Arte et primée, elle aussi, et tourné à Mout, toujours dans le même département. Alors, pourquoi cet engouement soudain que viennent chercher les réalisateurs dans ce territoire rural et montagnard? Et au-delà du Jura, quelle est l'importance au fond pour un lieu d'apparaître sur grand écran, pour un lieu et pour ses habitants? 01 45 24 7000 pour nous appeler, pour témoigner ou pour interroger nos invités que je vous présente. Sophie Ollier-Doma, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, chargée de la promotion de la région et responsable à ce titre du bureau d'accueil des tournages de films. Ça concerne le cinéma, donc court et long métrage, mais aussi les séries et les documentaires. Vous allez nous parler de ces discussions que vous avez avec les réalisateurs. Avec nous également Maïwenn Barthélémy. Bonjour.
Bonjour.
Maïwenn, vous êtes une jeune agricultrice encore en formation, à moitié en cours, à moitié sur l'exploitation agricole, et vous êtes aussi comédienne à l'affiche donc de ce film « Vin Dieu » de Louise Courvoisier, dans lequel vous interprétez le personnage de Marie-Lise, une jeune agricultrice. C'était votre premier rôle, Maïwenn Barthélémy. Vous n'aviez jamais joué la comédie.
Tout à fait, c'est ça.
Et j'ai l'impression que vous y avez pris le plus grand plaisir.
Oh oui, oui, oui.
Particularité pour notre sujet du jour, Maïwenn, vous êtes originaire de Haute-Saône, le département voisin, c'est bien ça?
C'est ça, oui.
Vous n'aviez jamais entendu parler du Jura? Vous n'y étiez jamais allé?
Si, 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 je connaissais quand même le Jura, c'est quand même pas loin de chez moi. Mais j'y suis jamais autant allé que pour le tourner dans Vin Dieu.
Vous l'avez donc découvert, si je puis dire? Qu'est-ce qui vous a marqué?
Oui, j'ai jamais autant découvert le Jura qu'en allant faire ce tournage. Les beaux paysages, on a tourné dans plein d'endroits différents.
Donc c'était un peu une révélation?
Oui, oui, oui.
Sophie Ollier-Dumas, comment est-ce que vous expliquez cet engouement pour ce département?
Alors, je tiens juste à bien préciser que le Jura, justement, c'est pas qu'un département. C'est trois départements. C'est le Doubs, le Jura et l'Ain. C'est un massif, et comme on parle des Alpes, qui concernent plusieurs départements, bah, le Jura, c'est pareil. Donc, c'est important de montrer qu'il y a vraiment des identités bien particulières dans ce massif. Et c'est ce qui est assez chouette, c'est de pouvoir effectivement voir toute la dynamique et l'attachement qu'on peut avoir à ce territoire à travers les films qui ont pu y être tournés.
Alors, le film dans lequel joue Maïwenn Barthélémy a été réalisé par une jurassienne, c'est Louise Courvoisier. Ça explique peut-être qu'elle soit venue sur les traces de son enfance pour tourner, mais au-delà, que viennent chercher les autres réalisateurs?
Ce qui nous a énormément étonnés et en tout cas plutôt rassurés sur l'authenticité, on va dire que c'est un mot un peu galvaudé, ces derniers temps tout le monde dit on est authentique, mais je pense que sincèrement, à travers tous les films dont vous avez parlé tout à l'heure, que ce soit le roman de Jim, que ce soit Vin Dieu dont on parle, Un ours dans le Jura, on est vraiment sur des films pour lesquels le territoire et le lieu où ça se passe est véritablement important. Et c'est pour ça que là on voit bien ce mélange et cet intérêt de mélanger tourisme, entre guillemets, et accueil de tournage, parce que l'idée c'est de vendre véritablement des destinations, d'être vraiment avec cette logique de fierté aussi des territoires et tout l'attachement qu'on peut y avoir. C'est ce qu'on retrouve véritablement dans les montagnes du Jura.
Est-ce que c'est moins cher aussi que de tourner à Paris?
Alors effectivement, on a eu la chance au départ de bénéficier de l'effet Jeux Olympiques hein, dans la grande région qui est la Bourgogne-Franche-Comté, donc qui a trois territoires un peu d'exception, que ce soit la Bourgogne, les montagnes du Jura ou le massif des Vosges également. On se retrouvait en fin de compte avec une opportunité pour les réalisateurs ou les producteurs d'identifier notre région aujourd'hui comme une terre de tournage. Parce que aujourd'hui, pendant les 2024, les tournages sur Paris étaient véritablement très limités, voire interdits dans certains cas. Et donc, ça nous a permis véritablement d'être identifiés comme un territoire à la fois de proximité, très accessible, et notamment accessible en termes de mobilité, mais aussi accessible en termes de prix.
Mmh. Accessible, le Jura. Et donc, vous vous y êtes rendue, Christine. Bonjour, Christine.
Bonjour.
Vous êtes originaire, vous, du département du Rhône?
Absolument.
Donc, pas très loin de Lyon. Et vous avez découvert ce département au cinéma?
Et j'ai découvert ce département au cinéma avec Vin Dieu le jour de sa sortie parce que ça parlait du comté et que nous sommes amateurs de comté, ma sœur Anne et mon beau-frère Patrick également. Et donc, j'ai décidé d'aller voir ce film et bien m'en a pris parce que ça a été une révélation et du coup, j'ai décidé d'aller passé quelques jours dans le Jura durant les vacances de
Vous avez
de
passé le réveillon ? Ouais, le réveillon ?
J'ai passé le réveillon dans le Jura.
Et alors ?
Avec ma sœur et mon beau-frère. La qualité de l'accueil, vraiment. De la bonne humeur, des paysages sublimes. Un peu, il fait parfois un peu frais, mais c'est ce qu'on voudrait davantage aussi. Et puis, ça m'a rappelé mes jeunes années, et ça rappellera également à vos auditeurs leurs jeunes années, avec Hubert Stéphane et la Camp Coyote. Tout ça m'est revenu en tête.
Jurassien et, célèbre. On vous perd un peu, Christine. On va vous laisser, Christine. Merci pour votre appel depuis le département du Rhône. Maïwenn Barthélémy, vous voyez que finalement, grâce à ce film, peut-être des gens découvrent cette région. Est-ce que vous avez pensé à ça quand Louise Courvoisier, la réalisatrice de Vindieu, vous a présenté le projet ?
Non, moi je pensais pas que les gens allaient le découvrir parce que pour moi c'est une région voilà que je connaissais quand même de nom et puis où je m'étais déjà rendue. Après, ce qui m'a vachement surprise, c'est que j'ai eu beaucoup de retours d'agriculteurs de là-bas et d'autres régions qui étaient très contents de l'image qu'on renvoyait à travers Vindieu, de leur monde, de leur ruralité à travers ce film quoi. Et ça faisait vraiment chaud au cœur parce que ça veut dire que la réalisatrice et nous les comédiens qui n'avions jamais tourné, on avait réussi à faire ce qui était... on avait atteint l'objectif.
Un film qui parle de vous. Vous vous êtes dit que c'était une bonne idée de le défendre. Le sentiment d'être représenté à l'écran.
Oui, moi je suis contente de mettre la jeunesse qu'on a dans nos campagnes en avant, les balles, les comices. C'est ma jeunesse à moi, c'est la jeunesse de mes copains. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir mettre en avant ce que nous on a vécu ou ce qu'on vit.
Même si voilà, c'est une jeunesse qu'on dépeint sous tous ses aspects, c'est une jeunesse qui se bat, qui travaille, mais c'est aussi une jeunesse qui boit beaucoup. Hein. L'alcool est très présent, je ne dis pas dans la réalité, mais dans le film. Est-ce que vous l'avez trouvé parfois pas caricatural, mais est-ce que vous avez trouvé qu'elle forçait un peu trop le trait ? Quand vous avez découvert comme ça au départ le script, le projet ?
Alors moi, c'est vrai que non, c'est pas du tout quelque chose qui m'est venu à l'idée. Après, voilà, je ne suis pas une grande cinéphile non plus, mais c'est vrai qu'on me l'a... J'ai vu des critiques qui appuyait vachement là-dessus, sur le fait qu'on mettait la clope, l'alcool en avant. Et j'étais un peu déçue, parce que c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, à travers Vindieu, mettre ça en avant. Nous, on voulait montrer les balles. Donc oui, il y a le papa dans le film qui meurt parce qu'il a trop bu, tout ça. Mais il y a autre chose. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse. Ça veut montrer le monde du travail, le monde des agriculteurs. Et c'est vrai que moi, personnellement, sur le coup, c'est pas ça que j'ai pensé, mais c'est plutôt les autres... spectateurs qui me l'ont fait remarquer.
Beaucoup de solidarité aussi entre ces jeunes dans ce film Vindieu. Sophie Ollier-Domas, vous qui êtes responsable du bureau d'accueil des tournages de films cinéma à la région Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que vous regardez précisément dans les scénarios avant d'autoriser les tournages et éventuellement de les aider ? Est-ce que c'est important ?
Alors, au niveau régional, donc c'est une commission du film qui se réunit pour justement retenir ou pas au niveau du conseil régional donc les films qui pourraient être tournés dans la région. C'est avant tout l'intérêt artistique qui est retenu et qui est véritablement mis en avant. Et forcément, quand vous conciliez tourisme et cinéma, vous aimeriez que tous les films soient merveilleux, fassent rêver, mais...
C'est pas un spot publicitaire, film.
Tout à fait. Et c'est justement ce qui est intéressant, et c'est justement ce qu'on ne veut pas. Et c'est justement le choix que fait la commission du film plusieurs fois par an, puisqu'il y a plusieurs réunions qui ont lieu pour retenir des films. L'idée, là, par exemple, par rapport au comté, ce qui était intéressant, justement, et par rapport à ce que disait Marie-Lise tout à l'heure, c'était véritablement d'avoir cette identité du territoire, et tout le monde s'est retrouvé derrière cette identité. Et cette identité, elle a des hauts, des bas, et ce côté n'était pas volontairement caricatural. En tout cas, c'est pas du tout ce qu'on a pu nous identifier quand Vindieu a été retenu au niveau de la région.
Et puis, ça nous permet aussi, Maïwenn Barthélémy, d'entendre des accents comme le vôtre. Je sais pas si vous faites la réflexion quand vous allez au cinéma, mais on n'entend pas souvent des accents.
Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que les gens sont très fiers de ça. Hein. Que ça soit Mais j'ai même eu des commentaires de la Drôme, de Haute-Savoie. Ils sont très contents qu'on mette notre accent en avant. Et pour la petite anecdote, nous, sur le tournage, c'est vrai qu'on avait tendance un peu à le cacher. Et Louise Courvoisier, donc la réalisatrice, voulait vraiment des fois qu'on insiste sur notre accent parce que c'est vraiment ce qu'elle voulait mettre en avant, quoi.
Parce que ça vous arrive de cacher votre accent, Maïwenn? Ou c'était là la première fois?
Non, mais c'est vrai que pendant les avant-premières, quand on discute après avec le public, les gens faisaient la réflexion en me disant « vous n'avez pas trop l'accent ». Et je pense qu'un peu inconsciemment, quand du coup je discutais, je faisais un peu attention à ne pas trop déborder.
Vous êtes dit « ça va gêner ».
Oui, ouais, c'est vrai que des fois, on a tendance un peu à ne pas trop l'assumer, alors que c'est pas du tout agir comme ça.
Mais non, je vous le confirme. Et moi, j'étais très heureux d'entendre votre accent et celui des autres acteurs de ce film. Philippe est en ligne avec nous. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à vous.
Je crois que vous avez vu quelques-uns de ces films récemment.
Oui, j'ai vu le roman de Jim, j'ai vu Vin Diou, félicitations. Je n'ai pas encore vu le film du Bosque qui vient de sortir.
Un ours dans le Jura. Est-ce que vous êtes heureux de voir ce massif, ce territoire mis en avant ?
Oui, je ne suis pas jurassien, je suis parisien, d'origine bretonne. J'ai découvert il y a 40 ans, grâce à mon épouse et à mes beaux-parents, dans un petit village à côté de Lons-le-Saunier.
On vous écoute, Philippe.
Oui, qui s'appelle Verges, il y a 200 habitants. Et Vin Diou, pour moi, comme le roman de Jim, m'a beaucoup parlé parce que j'ai ressenti, comme une de vos intervenantes, la solidarité, l'écoute, ces jeunes ensemble qui ont des projets. Le comté, oui, c'est l'image du Jura, mais Vin Diou, avec ce scénario autour de ce jeune homme dans une situation avec sa petite sœur qui est fantastique, m'a porté encore plus avec les relations que j'ai avec ces jeunes du village qui sont paysans, fils de paysans ou jeunes agriculteurs, maraîchers. Et dans ce Jura, il y a une solidarité profonde que j'ai pu constater au fil des ans.
Merci Philippe pour ce témoignage. Sylvia nous appelait également de Valence. On a eu beaucoup d'appels, mais on est au bout de cette interview. Je voudrais remercier Maïwenn Barthélémy, vous inciter à aller voir ce film, Vin Diou et les autres. Merci également à Sophie Ollier-Domas. D'un mot, Sophie Ollier-Domas, il y aura d'autres films qui vont sortir dans les prochains mois?
Oui, il y en a plusieurs qui sont prévus. Alors bien sûr, on ne peut pas les dévoiler pour l'instant, mais en tout cas,
vu le nombre
de projets qui ont été tournés dans la région, on en a eu plus de 55. Sincèrement, il va y avoir quelques belles sorties dans les années à venir.
Et on souhaite bonne chance à Maïwenn Barthélémy pour les Césars qui vont arriver très vite. 13h46 sur Inter. Notre feuilleton, nous passons la semaine avec Anne-Marie Amila, 75 ans, et qui vit depuis 36 ans avec le cœur et les poumons d'un autre. C'est l'une des plus anciennes transplantées au monde. Greffée en 1988, grâce à deux chirurgiens que l'on retrouve aujourd'hui, le professeur Philippe Dartevelle et Alain Chapelier, aujourd'hui tous deux à la retraite.
En 1988, j'ai 40 ans, et la transplantation du bloc cœur-poumon est quelque chose de considéré comme impossible. On me dit, mais ça ne marchera jamais, il ne faut pas la faire, vous allez tuer des malades, arrêtez tout ça. Un ami, Pascal Vouet, qui est devenu un grand chirurgien cardiaque pédiatrique par la suite, président de la Société européenne de chirurgie thoracique cardiovasculaire, un jour, dans mon bureau, il me dit, t'as vu à Stanford, ils ont fait deux transplantations du cœur et des poumons. Il faut faire mieux. Tout le monde me disait, ça ne marchera jamais. Il ne faut pas faire. Dans une transplantation du rein ou du foie, il n'y a pas d'infection possible de l'extérieur. Dans une transplantation pulmonaire, obligatoirement, les poumons s'infectent, puisque le poumon était ventilé sur le donneur et qu'il est ventilé aussi sur le receveur. Donc, il y a des infections obligatoires. Et on a persévéré. On l'a tellement bien mise au point que la première transplantation qu'on avait faite en 86, elle s'est passée remarquablement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la répétition, l'entraînement, la préparation. Les infirmières anesthésistes, les anesthésistes descendaient aussi au bloc. La veille de la première transplantation, les gens avaient affiché sur tous les murs du bloc opératoire tous les temps qu'il fallait faire. Tout était timé, tout était calculé. Tous ces gens-là ont été tellement passionné par cette aventure humaine que tout le monde s'y est mis.
Je suis Alain Chapelier, j'ai exercé durant 20 ans à l'hôpital Marie-Lanne-Longue. J'étais chez moi et j'avais des amis à dîner. Quand France Transplant a proposé un greffon via Eurotransplant en Allemagne, j'ai donné les coups de fil nécessaires pour organiser tout, pour emmener avec moi un jeune assistant, une penseuse. On partait.
Qu'est-ce que c'est une penseuse ?
Une infirmière de salle d'opération dédiée à ces interventions de greffe et donc qui nous accompagnait sur les lieux du prélèvement, en l'occurrence en Allemagne. Avec l'objectif qu'il y ait moins de 4 heures au moment où le bloc serait réimplanté une fois parvenu à Marie-Lanne-Longue. Donc cette synchronisation était très importante, de façon à ce que l'équipe, j'allais dire principale, qui fait la transplantation, ne commence ni trop tard, ni trop tôt. L'avion s'était posé à Cologne, mais il fallait aller dans un hôpital à Göttingen, en l'occurrence, et on devait y aller en hélicoptère, mais à cause du brouillard, l'hélicoptère n'était pas utilisable, et on a emprunté une Audi Quattro qui a roulé très vite pour se rendre à l'hôpital, à l'aller comme au retour. On était un peu inquiets dans la voiture.
Donc vous embarquez un cœur et des poumons dans une glacière, qu'est-ce que c'est ?
Alors à l'époque, effectivement, et encore maintenant d'ailleurs, on réfrigérait les organes, c'est-à-dire on perfusait une soluté froide, à la fois dans le cœur et dans les poumons, et on conservait ensuite ce bloc cœur-poumon dans un liquide froid, dans une glacière, de façon à ce que cette température froide qui protège les organes quand ils ne sont pas vascularisés soit maintenue pendant tout le temps du transport.
On lui a dit, Anne-Marie, on va chercher vos organes en Allemagne.
Bon, je crois qu'on ne lui a pas dit à ce moment-là, non.
Alors, Anne-Marie a été transplantée en 88. La mortalité post-opératoire de cette chirurgie était de 20-25%. Aujourd'hui, elle est de moins de 5%. Donc, vous voyez, les progrès considérables.
Le professeur Philippe Dartevel et le professeur Alain Chapelier dans ce deuxième épisode au micro de Cécilia Arbonnat. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50 le mercredi. Le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Éric, y a-t-il encore des choses à apprendre à propos de Jean-Marie Le Pen décédé hier ?
Alors sans doute assez peu vu la longue exposition dans la vie politique de celui qui aimait passer pour le diable de la République. De lui on a tout dit ou presque, la triple influence des idées rances de Charles Maurras, de la guerre, ou plutôt de la sale guerre en Algérie, où il pratiqua la torture, et enfin de son affiliation à ses débuts au poujadisme, un mouvement anti-élite où sourdait déjà l'antisémitisme. Dans le numéro spécial du 1 que nous lui consacrons demain, jeudi, sous le titre « Le Pen, le côté obscur de la France », l'historienne Valérie Higounet rappelle que le socle fondamental du lepénisme reposait sur trois « i », l'immigration, l'identité nationale et l'insécurité. Le premier slogan mémorable du leader de l'extrême droite sera placardé en 1978 sur les affiches de la campagne des législatives. Il dit « 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop. La France et les Français d'abord. » Donc Jérôme, peu de surprise, excepté cet incroyable discours que nous avons déniché dans les archives de l'Assemblée nationale.
Incroyable, c'est bien le mot, Éric. Je donne le contexte. 28 janvier 1958, Jean-Marie Le Pen vient de rentrer d'Algérie après 6 mois de combat comme parachutiste. Que dit alors à l'Assemblée le jeune député pro-Algérie française.
Et oui, il faut se pincer, Jérôme, pour admettre que ces mots qui résonnent à la tribune de l'Assemblée sont bien du même homme qui, plus tard, fera de la xénophobie sa méchante marque de fabrique. Et pourtant, écoutez bien. « Je prétends, dit Le Pen, qu'il y a dans la masse musulmane une profonde aspiration à faire partie d'une entité nationale et à participer en tant que citoyens égaux à une nation. » Cette nation, je l'affirme, peut être la France. La solution adoptée alors aurait le double mérite de satisfaire les aspirations nationales des musulmans et de concorder avec l'intérêt de la France. Ce qu'il faut dire aux Algériens, poursuit-il, si nous voulons en faire des Français, ce n'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. C'est qu'ils ne sont pas un fardeau. Ils seront au contraire la partie dynamique et le sang jeune d'une nation française dans laquelle nous les aurons intégrés. J'affirme, dit-il encore, que dans la religion musulmane, rien ne s'oppose au point de vue moral à faire du croyant ou du pratiquant musulman un citoyen français complet. Bien au contraire, ces préceptes sont les mêmes que ceux de la religion chrétienne. Le Pen invite enfin la représentation nationale à, je cite, « faire des Algériens des Français égaux en droits et devoirs », concluant « la France a besoin de l'Algérie, peut-être plus que l'Algérie n'a besoin de la France ».
Oui, discours inconnu que vous avez retrouvé, Éric. Marine Le Pen ensuite s'est employée à dédiaboliser le parti de son père qu'elle a exclu du FN en 2015. Est-ce à dire que le lepénisme disparaît avec Jean-Marie Le Pen ?
À l'évidence, non. Et plutôt qu'une longue réponse, vous découvrirez dans ce numéro spécial du 1 une caricature du dessinateur Erwan Terrier. Elle montre Jean-Marie Le Pen la bouche grande ouverte, d'où sort le visage de Marine Le Pen, la bouche elle aussi grande ouverte, laissant sortir le visage de Marion Maréchal qui montre les dents. Alors non, Jérôme, le lepénisme survit à son fondateur dans sa version la pire. Il n'est qu'à se souvenir de quelques candidats RN nostalgiques du Troisième Reich aux dernières législatives pour s'en convaincre.
Aujourd'hui dans le 1, Éric.
Le 1 pose la question, le progrès a-t-il de l'avenir ? Et nous republions une archive importante, notre numéro d'il y a 10 ans après les attentats de Charlie. Et demain en kiosque, bien sûr, Le Pen, le côté obscur de la France.
Éric Fotorino, du 1 Hebdo, de C'est la France à C'est une chanson. C'est un imitateur que vous recevez aujourd'hui, Frédéric Pommier. Il s'agit de Didier Gustin.
Vous pouvez le voir actuellement au Théâtre de Passy, à Paris, dans sa pièce musicale Johnny, libre dans sa tête, un spectacle hommage à Johnny Hallyday. Mais c'est de Claude Nougaro que Didier Gustin a souhaité parler. Un artiste qu'il a eu la chance de rencontrer au tout début de sa carrière.
Quand je suis arrivé à Paris, je jouais dans un tout petit théâtre qui s'appelait le Théâtre du Tourtour. C'est donc rue Quincampoix, à côté de Beaubourg, dans une cave. Il y avait 70 places. Au-dessus, il y avait Maxime Le Forestier qui habitait là. De temps en temps, il est venu voir le spectacle. Mais le premier qui est venu me voir, c'était Claude Nougaro. C'est incroyable. Dans une petite salle, je débarquais de ma province. J'avais 19 ans. Et on me dit, il y a une petite surprise pour toi. Je dis, ah bon, j'arrive, Claude Nougaro. Waouh. Il me dit « Bonjour Gustin, tu as trouvé quelque chose, maintenant il te faut creuser. » Et puis c'est drôle parce que sa femme lui disait pendant le spectacle oh, « Il te fait super bien !» Il lui dit « Ah bon, je cause comme ça ?» Et puis 10 ans après, j'étais au studio 106, ici, dans cette même maison, dans une émission de Laurent Ruquier. Puis là, ce jour-là, on recevait Claude Nougaro, donc moi j'étais avec Richard Lornac, on était en train de répéter au piano. Et puis dans cette grande salle vide, je vois tout en haut descendre les escaliers Claude Nougaro, qui me reconnaît de loin et qui dit « Alors Gustin, qu'as-tu fait de tout ce temps ?» C'est incroyable, c'est incroyable.
Quand les hommes deviennent sages, polis, polis, trop polis, et que tu vois plus ton visage, dans le miroir des polis, de leurs yeux qui te traversent, comme si t'étais pas devant. Ô femme, c'est que ta jeunesse s'est envolée dans le vent qui claque les portes, le vent qui sait le vieil art de larguer les feuilles mortes. Allez débrouillard, allez débrouillard.
Cette chanson, Frédéric, a pour titre « Allez débrouillard », elle est sortie en 1983.
Et c'est sur France Inter que Didier Gustin l'a découverte, il était alors au lycée.
Mon prof de français m'a donné un magnéto à bande et j'enregistrais les émissions de Fouquier, avec qui j'ai travaillé plus tard, et je m'enregistrais les chansons que j'aimais bien. Et après, je me repassais ces chansons en boucle et puis j'essayais de rechanter la chanson. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris à imiter en fait. Et il y a un jour, il y a eu cette chanson de Claude Nougaro. Et alors, ce qui est drôle, c'est que, comme il fallait le temps que je mette en marche mon magnéto, donc ça veut dire qu'il me manquait un couplet.
Le premier.
Donc moi, je me souviens de « Tu peux prendre des bains mousses, croquer des biscottes sans sel, sur ta peau des lunes rousses, on virait tes lunes de miel, c'est fini, y'a plus personne, pour tes caresses déplacées, tu peux repasser ton automne à la vapeur du passé. » Voilà. Mais je connais qu'à partir de là. Alors, il y a un couplet avant.
Et il raconte le temps qui passe.
Il raconte le temps qui passe sur une femme, oui. C'est magnifique.
Tu peux prendre des bains de mousse, croquer des biscottes sans sel, sur ta peau des lunes rousses, on virait tes lunes de miel, c'est fini, y a plus personne, pour les caresses déplacées, tu peux repasser ton automne à la vapeur du passé.
À partir de quel moment, vous avez eu conscience
de ces années qui s'accumulent, de ce temps qui passe inexorablement.
La conscience du temps qui passe, je pense qu'on l'a vers la cinquantaine. Avant, on est encore un peu dans une espèce de jeunesse, et puis après, on se dit « Ah oui, d'accord, ok, on a la moitié de notre vie, si tout va bien. » Et on a fait peut-être le plus rigolo, le plus facile. Après, le corps, si on en prend soin, on peut le mener loin, mais c'est surtout un état d'esprit, rester jeune. Je trouve que c'est surtout s'émerveiller.
Est-ce que quand vous entendez la voix de Nougaro aujourd'hui encore et cette chanson, vous continuez à être émerveillé ?
Ah oui, je suis non seulement émerveillé, ça me touche, et puis ça me ramène instantanément dans ma chambre d'adolescent. J'entends encore le clac du magnétophone, je sens la moquette de ma petite chambre d'enfance, c'est une Madeleine de Proust, vraiment, cette chanson, en tout cas pour moi.
Donc cette chanson, elle vous fait finalement prendre conscience aussi de ce qu'elle est en train de raconter.
Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Et encore plus aujourd'hui.
Allez, débrouillard. Claude Nougaro, c'était donc, Frédéric, le choix de l'imitateur Didier Gustin.
Didier Gustin qui donne jusqu'à dimanche son spectacle Johnny libre dans sa tête au théâtre de Passy à Paris.